Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Flora Messi.
Il est 10h07, vous êtes bien dans les grandes gueules du sport sur RMC. Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, on vous accompagne jusqu'à midi avec Jérôme Pinault, Fred Weiss et Cédric Aymans. Ça va toujours, messieurs ?
Parfait.
Ça va parfaitement.
Parfaitement bien ?
Parfaitement bien. Comme parfaitement. Un samedi, vraiment, samedi, je vois Cédric Aymans devant moi. Ouais. Depuis ce matin, j'ai l'impression d'être en vacances un petit peu.
Comme un premier samedi d'août.
Exactement. Les chassés croisés, tout ça, moi, je suis fan.
Fais le point toutes les demi-heures sur les conditions de circulation sur RMC, ne t'inquiète pas.
Mais toi, t'es plutôt juilletiste ou haussienne, justement ?
Je suis septembriste.
Septembriste, ouais. Très bien. Donc, ça m'étonne pas, tu veux toujours te démarquer.
Pour ça que je suis au
taquet. Moi, des nombrilistes.
Près des nombrilistes.
Très bon. Bien, Jérôme.
Tellement. Tu me connais tellement.
S'il y a bien un mec qui s'aime, c'est lui, tu vois.
Allez, le ring des GG dans quelques instants. On va parler du Tour de France femme qui démarre aujourd'hui et de notre star Pauline Ferrand-Prévot. La punchline des GG à suivre aussi autour de Zinedine Zidane, nouveau sélectionneur des Bleus. Est-ce qu'on n'en fait pas trop avec l'arrivée de Zizou ? Le vestiaire aussi des GG, on ouvrira les portes autour des vacances justement de nos GG. Que faisaient-ils pendant qu'ils étaient en vacances et qu'ils étaient encore en activité ? Attention. Toutes confidences sont bonnes, mais attention, faut pas tout révéler. Sans oublier évidemment les jeux du sport en fin d'émission. On vous rappelle que tout ce week-end dans les grandes gueules du sport, à l'occasion du Tour de France féminin, Basic Fit, partenaire fitness officiel du Tour de France femme avec Zwift, vous offre un an d'abonnement pour vous entraîner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans plus de 300 clubs en France. Pour remporter cet abonnement, Basic Fit, vous envoyez sport SPORT au 7 32 16. Aujourd'hui, c'est le grand départ de la 5e édition du Tour de France Femmes avec Zwift. Il faut que je m'habitue à dire ça quotidiennement, oui. Du coup. Avec pour la première fois un passage par le mythique Mont Ventoux. On a tous vibré l'année dernière avec la victoire finale de Pauline Ferrand-Prévot qui visera donc cette année le doublé.
RMC, le ring des GG.
C'est son moment, il faut qu'elle profite. Pauline Ferrand-Prévot est la reine de ce Tour de France Femmes. Allez, quelques dizaines de mètres encore. Elle s'est retournée pour regarder ce qui se passe derrière. Mais Pauline, t'as pas d'inquiétude, il y a personne. L'écart est creusé, les bras sont levés. Pauline va s'écrouler parce qu'elle réalise ce qu'elle est en train de faire. Pauline Ferrand-Prévot vient de passer la ligne, les bras levés. Évidemment les émotions, mais c'est la reine. Elle est seule au monde, Pauline Ferrand-Prévot, sur ce Tour de France Femmes. Le maillot jaune sur les épaules. Deux victoires d'étape et surtout la victoire de ce Tour de France. C'est la première fois qu'elle le faisait et c'est la première fois qu'elle s'impose. Elle est juste incroyable, magistrale, la grande championne aujourd'hui. C'est elle, c'est Pauline Ferrand-Prévot, c'est notre Française. Fabuleux, extraordinaire.
Un tour qu'on va suivre évidemment en intégralité sur RMC tous les jours avec les intégrales tours où on retrouvera notre consultante Camille Failly. Salut Camille.
Salut à tous.
Bienvenue dans les grandes gueules du sport. Ils vont être sympas.
Bonjour Camille.
Bonjour Camille.
Ouais.
Bonjour Camille. Camille qui prend sa voix grave pour t'accueillir, ça veut dire beaucoup. Tu vas être gentil, Fred.
Mais évidemment. Elle est adorable et elle connaît très bien son sujet, surtout. C'est ça qui m'intéresse.
Merci de le souligner. Bah effectivement. Oui, vous allez le voir d'ailleurs dans quelques instants. Pauline Ferrand-Prévot, c'est évidemment l'attraction numéro 1 de cette grande boucle 2026. Elle va tenter de remporter, je le disais, un deuxième Tour de France consécutif. On va faire le point avec Maria Azé qui va nous commenter ce Tour de France femme pendant 9 jours sur les antennes d'RMC. Salut Maria!
Salut Flora, salut tout le monde.
Salut Maria.
Salut Maria.
Bonjour Maria.
T'as vu la voix douce de Jérôme pour t'accueillir. T'as vu, c'est une toute vieille maman d'un coup.
Bah oui, mais ça fait 5 jours qu'on s'est pas vu, t'imagines, après 3 semaines tous ensemble.
Pauline Ferrand-Prévot, Maria, est-elle la favorite? Parce que finalement, on ne sait pas grand-chose aussi de son état de forme actuel. Hein.
Oui, bah c'est vrai qu'on se posait un peu tous la question sur sa forme à Pauline Ferrand-Prévot. D'abord parce qu'elle n'a rien gagné cette saison, 2 podiums, mais aussi des places anecdotiques, hein, comme sa 35e place au général sur la Vuelta. Mais en la voyant arriver hier, hyper affûtée, après plus de 2 mois et demi de préparation, on s'est dit qu'on avait retrouvé la vraie PFP.
Je me sens comme l'année dernière. J'ai la sensation d'avoir fait tous mes devoirs et d'arriver à l'examen en ayant donné le maximum. Pendant 2 mois et demi, je me suis entraînée principalement toute seule. J'étais tranquille dans mon hôtel. Je me suis dit, je sens pas forcément la pression du tour, mais là, c'est vrai qu'on commence à la sentir.
Alors forcément, tout le monde s'en méfie, notamment la FDJ Suez de Demi Vollering, la néerlandaise qui sera la principale adversaire de la Française sur ce Tour de France. À l'inverse, Vollering a tout gagné cette saison, le Giro, le Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège et j'en passe. Mais son manager Stephen Delcourt n'a pas oublié le Tour de France de l'année dernière et il craint la tenante du titre.
Notre ennemi numéro un, ce serait Pauline. C'est la plus grande championne multidiscipline de notre sport. J'ai un respect énorme pour elle, mais j'ai encore plus d'envie que l'équipe la batte. Je pense qu'elle est affûtée, elle est prête mentalement, et comme Demi et toute notre équipe est prête.
Vollering semble tout de même plus forte que l'année dernière, ce qui réjouit la patronne du Tour de France femme, Marion Rousse, qui espère un gros duel entre les deux coureuses. Pour elle, PFP reste favorite.
Pour moi, elle sera difficile à battre. En revanche, bah, il est vrai que derrière, le niveau est de plus en plus élevé. Donc, ça pousse. Demi Vollering, je pense qu'elle arrive aussi revancharde de l'an dernier. Finalement, on aura du suspense sur chaque étape.
Le gros défi de PFP cette année, si elle veut gagner, c'est le contre-la-montre, une discipline qui lui correspond un peu moins, mais qu'elle a énormément travaillé pour tenter de perdre le moins de temps possible, pour ensuite faire exploser tout le monde au sommet du Mont Ventoux vendredi prochain.
Merci beaucoup Maria, tu restes évidemment avec nous pour ce débat aujourd'hui dans les GG sur le ring. Le Tour de France féminin repose-t-il uniquement sur Pauline Ferrand-Prévot cette année, Fred?
Non, vraiment pas.
Jérôme?
Non, pas du tout.
Cédric?
Pour le public français, oui. Pour l'intérêt du Tour, non.
Mais alors, en fait, il peut pas prendre une décision. Il est toujours oui, non, peut-être.
J'ai envie d'être la Suisse aujourd'hui.
Mais t'es breton, quoi.
Mais non, déjà, les Bretons, respecte un peu les Bretons. Grâce à Jérôme, j'ai découvert la Bretagne. C'est magnifique. Donc tu parles pas des Bretons.
Aucun rapport, sauf qu'ils ont la réputation de dire peut-être Bacri, peut-être Macron. Et tu as cette problématique, tu n'arrives pas à donner une vraie réponse.
C'est normand, ça.
C'est Camille qui va trancher. Objectivement, Camille va trancher. Est-ce que l'intérêt de ce Tour de France femme aujourd'hui repose que sur Pauline Ferrand-Prévot?
Je suis assez d'accord avec vous, non.
Voilà. Cédric a beau tout faire.
Je l'ai regardé, c'est pour moi. Oui,
alors il faut que tu nous dises pourquoi, du coup, Camille. On va rebondir évidemment sur tes arguments ensuite.
Ouais, bien sûr que Pauline, elle est la favorite. L'année dernière, elle avait écrasé le Tour de France en mettant 3 minutes presque dans le col de la Madeleine à ses adversaires les plus fortes comme Demi Vollering. Après, c'est vrai que le niveau, il augmente d'année en année. Et voilà, aujourd'hui, elle va avoir fort à faire pendant le Tour de France, avec notamment des petites jeunes qui arrivent, avec Paola Blasi, qui a gagné la Vuelta, qui a à peine 23 ans. Bien sûr, Vollering, elle a très envie de gagner cette année. Elle a une équipe formidable autour d'elle qui va vraiment tout faire pour elle. Donc voilà, et puis on a aussi Marlène Reusser, qui est suisse, qui a cœur de bien faire.
Alors là, tu nous parles de toutes les autres concurrentes, évidemment, de Pauline Ferrand-Prévot. Je vais me tourner quand même vers Cédric, parce que évidemment, quand on parle du Tour de France, on s'adresse aussi au grand public, qui est dans la continuité du Tour de France homme et qui va regarder ce Tour de France femme avec évidemment un œil particulier. C'est pas pour rien non plus si les audiences de l'année dernière ont explosé sur le Tour, parce que Pauline Ferrand-Prévot allait gagner.
Mais moi, l'année dernière, ça m'a donné envie de regarder le Tour de France féminin. Je me suis régalé. J'avais envie de voir si elle était capable d'aller chercher ce maillot jaune, comment elle a construit sa réussite. Maintenant, quand tu es français, forcément, tu supportes un athlète français. Là, il y a Demi Vollering qui arrive, qui a couru beaucoup moins. Je crois qu'elle a fait 20 courses, contrairement à l'année dernière où elle en avait fait 29. Elle arrive avec beaucoup plus d'ambition. Elle arrive avec une équipe costaud. Il y a tout cet intérêt.
Une équipe française.
Oui.
Oui, mais ça c'est important aussi. Oui. Parce que tu parles de français. Alors oui, c'est très bien d'avoir une athlète française qui représente, mais elle représente pas une équipe française. Donc, quand on dit qu'il y a que Pauline Ferrand-Prévot, moi je trouve que c'est hyper intéressant ce qu'elle a fait. Et effectivement, elle m'a mis le pied à l'étrier. Grâce à elle, cette année, j'ai envie de regarder. Mais je sais aussi que grâce à elle, il y a cette compétition qui va y avoir avec Demi Vollering, qui pourrait permettre à une équipe française de gagner le Tour. Donc
rien que ça, ça me plaît. Si Pauline est hors course et qu'elle n'arrive pas à être dans les premiers rôles, l'intérêt du public français, il va s'essouffler.
Mais je suis pas sûr. Mais parce qu'il y a des Françaises qui ont gagné les étapes.
Tu regardes les athlètes, tu regardes pas les équipes.
Je suis pas d'accord. Et rappelle-toi,
je suis d'accord avec Cédric.
Oh, ouais, Fred.
Mais oui, mais moi je suis pas d'accord parce que justement on a une Maëva Skiban qui a gagné deux étapes l'année dernière. Et si on a des Françaises qui lèvent les bras, ce qui n'a pas été le cas chez les garçons, l'intérêt va revenir. Alors oui, c'est important pour les Ferrand-Prévot. Je suis pas en train de dire que c'est pas Fred. Important, mais c'est pas le seul truc qui soit important sur ça. Il y a le Mont Ventoux, il y a l'ambiance, il y a les gens qui regardent,
tout ça, c'est le décorum du tour.
Mais oui, mais ça fait partie du décorum du tour.
Non, mais moi je suis d'accord avec le fait que tout ne repose pas sur Pauline, parce que Pauline toute seule, ça ennuierait les gens. On a connu l'hégémonie, la surdomination de Jeannie Longo à une époque, bah ça lassait les gens en fait. Il faut de la concurrence, il faut de la belle concurrence. Et là, il y en a cette année, parce que Demi Vollering, au-delà du fait qu'elle a un peu moins couru, elle a dominé la saison, et surtout, elle est pour sa deuxième année dans sa nouvelle équipe. Et ça, ça compte beaucoup. Ça y est, elle a ses repères, elle sait avec qui elle peut aller à la guerre, elle sait comment elle est entourée, elle travaille très bien avec Lars Boom, le directeur sportif. Tout ça compte beaucoup. Puis derrière, comme l'a dit tout à l'heure, on l'a dit, c'est Reuss, c'est Blasi, elles sont très très fortes. Et même si Pauline n'arrivait pas à l'emporter, il y aura de toute façon une belle bataille, parce que ce contre-la-montre placé juste avant le Ventoux de 21 km à Dijon va être très important. Il va être
Jérôme,
même primordial.
Jérôme, pourquoi il n'y a pas eu le contre-la-montre depuis 2023? Je n'ai pas compris ce truc. Alors que c'est génial, le contre-la-montre, ça plaît à tout le monde.
Parce que Fred, il y a eu des athlètes qui étaient tellement dominatrices dans cette discipline qu'on avait peur de tuer le suspense. Et là, quelque part, on rééquilibre. Voilà, exactement. Pourquoi ? Parce que Pauline n'est pas une grande spécialiste du chrono à la base. Attention, sur un tour c'est différent. Mais à la base, c'est pas une grande spécialiste. Donc on considère peut-être qu'elle va un peu perdre du temps pour avoir une vraie bataille dans le Ventoux et dans les étapes difficiles, parce que ce Tour de France, il est très difficile. Par contre, là où je te rejoins pas, Fred, c'est qu'on n'est pas derrière une équipe. Si Pauline n'était pas dans le coup, dans la même équipe que Pauline, il y a Marion Brunel qui peut faire un fabuleux Tour de France et des chances de victoire et peut-être même de podium. Elle repousse sur Maëva Skiban, qui est dans une équipe UAE, donc à l'étranger, et sur Cédrine Kerbaol, dont on ne parle pas assez, qui est une fabuleuse athlète et qui pourrait nous surprendre cette année au Tour de France. Donc c'est des équipes, et elle est chez UIF. Donc on va suivre d'abord nos athlètes françaises, mais le cyclisme français aujourd'hui n'est pas que et ne repose plus que sur les épaules de PFP, et c'est ce qui est très intéressant, notamment dans l'équipe FDJ Suez. On a une gamine qui s'appelle Célia Géry, qui est la future Pauline Ferrand-Prévot. Célia Géry, elle est championne de France. Sur route, elle a dominé de la tête et des épaules.
Elle glisse
de
maillot blanc.
Oui, mais sur les routes du Tour, Jérôme, tu sais bien qu'il va y avoir que des affiches pour Pauline Ferrand-Prévot. Il faut être objectif.
Ben oui. Oui, non, mais elle est, comme je l'ai dit hier quand on a préparé l'émission, elle a été un formidable accélérateur. Elle a mis en lumière le Tour de France femme by Swift.
Toi aussi, t'as du mal.
Oui, non, parce que mais Swift, si Swift n'est pas là, l'équilibre financier n'y est pas.
C'est
non
pour
plus.
Ça qu'on en essaie de répéter important. Ce terme.
Mais effectivement, il n'y en aura que pour Pauline, et Pauline sera la grande favorite de ce tour. D'ailleurs, dans les étoiles données par nos confrères de l'équipe aujourd'hui, elles sont deux à 5 étoiles. Il y a Demi et Pauline, et ça va être un duel. Mais on sait très bien que le Tour de France et les courses de cyclistes par étapes réservent de nombreuses surprises. Pauline n'est pas à l'abri. Moi, je te l'ai dit hier, Flora, quand on prépare le Tour de France comme elle l'a préparé, dans la douleur, le cerveau a une mémoire. Et l'année dernière, elle s'est fait très mal. Elle est arrivée avec, rappelez-vous, cette espèce de demi-polémique avec son poids et très affûté. Et refaire la même chose, c'est très difficile. Aller aussi loin que dans la douleur, c'est très difficile.
Oui, mais son corps, si elle est un peu moins bien. Son corps, son cerveau s'en souvient. Donc, si elle est forte, elle est capable parce que son corps l'a déjà vécu.
Exactement. Sauf que si elle est un peu moins bien, je pense que la concurrence sera la prochaine.
Justement, si elle est un petit peu moins bien. Est-ce que le tour aura le même intérêt? Pour moi, le tour aura le même intérêt, mais apparemment, bien c'est sûr, vrai que je suis pas d'accord.
Non, mais Camille, c'est important aussi de revenir sur cette préparation dont parlait Maria, finalement un petit peu cachée. On a eu l'impression que Pauline Ferrand-Prévot, elle a eu besoin aussi de s'enlever cette pression. Elle le dit, je n'ai pas le besoin de gagner toute l'année. C'est pas ce qui m'intéresse. Elle vient quelque part pour un one shot, en fait, pour venir gagner sur ce Tour de France. Elle a dit, je ne suis pas Tadej Pogacar dans ce côté boulimique de victoire. C'est pas ça qui l'intéresse.
Non, c'est sûr. Et puis, elle n'est pas Pogacar aussi dans le sens où elle sait qu'il y a une concurrence qui est très, très forte autour d'elle et que si elle est un peu moins bien, c'est sûr qu'elle se fera battre. Et voilà, je pense que la concurrence va être impardonnable avec elle. Après, c'est sûr qu'au niveau du public français, elle sera supportée comme personne.
Ouais, moi, je me pose la question, est-ce qu'elle n'est pas excellente en communication? Parce qu'on a vu ce qu'elle a. Elle a essayé de remettre la pression sur Demi Vollering en disant finalement, je suis moins favorite que Demi Vollering. Est-ce que c'est pas une preuve d'intelligence?
Ça
incroyable.
M'intéresse aussi d'avoir l'avis de Maria qui a vu du coup Pauline Ferrand-Prévot. T'as vu tout le monde cette semaine, Maria. Comment tu l'as senti, la Française qui a rejeté toute forme de pression jusque-là, mais elle va en récupérer beaucoup d'un coup finalement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que ça lui revienne au visage complètement? Après, elle est habituée, hein, Pauline Ferrand-Prévot, c'est pas le début de sa carrière. Voilà, elle est habituée à toute cette pression autour d'elle. Mais oui, hier, on a l'impression qu'elle essayait un peu de se décharger de tout ça. Elle a dit, je veux pas paraître prétentieuse, mais ça va pas me changer la vie si je gagne un deuxième Tour de France. Donc, on dirait qu'elle essaie d'agir et de parler comme ça pour essayer de s'enlever toute pression. Alors qu'au final, on sait très bien qu'elle est en mission, Pauline Ferrand-Prévot, qu'elle a qu'une envie et qu'elle a vécu une vie de moine un peu pendant 2 mois et demi juste pour se préparer pour un seul objectif. Le Tour de France, c'est l'obsession de sa saison. C'est ce qu'on nous dit en interne. Elle ne vit que pour ça le reste de sa saison. Le début de saison, ses performances, ça l'importe peu. Il y a que le Tour de France qui l'intéresse. Et sur son poids, bah, elle a fait la même préparation que l'année dernière. Hein, donc elle est arrivée quasiment aussi affûtée que l'année dernière. Je pense qu'elle a peut-être quelques kilos en plus pour le contre-la-montre quand même, parce qu'il faut avoir un peu de caisse, un peu de physique. Mais non, la préparation, elle a été la même. Ça a marché l'année dernière, donc elle a recommencé la même chose pour cette année.
Une question quand même, parce que si on pose ce débat aujourd'hui, Camille, sur l'intérêt de ce Tour de France qui reposerait ou non sur la présence unique de Pauline Ferrand-Prévot, on parle aussi de l'intérêt du grand public, évidemment, pour que ça attire les gens. Il y a des records d'audience, on le dit, on est dans la continuité du Tour de France homme, où on a manqué un peu d'adversité aussi. On se pose la question parce que le Tour de France femme ne dure que 9 jours, contrairement aux 3 semaines du Tour de France homme. Est-ce que ça fait partie aussi du développement qui pourrait créer encore plus d'intérêt autour de ce Tour de France? On voit qu'il y a l'ajout du Mont Ventoux aussi sur ce Tour de France-là pour avoir un petit peu d'intérêt et de bataille en montagne.
Ouais, je pense qu'il n'y a pas de débat. C'est sûr que ce Tour de France, il a apporté énormément d'intérêt autour du cyclisme féminin. Je vois tous les jours de nouvelles femmes qui se mettent au vélo et ça, c'est vraiment grâce au Tour de France. Après, c'est sûr que l'organisation essaye d'être progressif dans l'évolution du Tour, parce qu'on sait que le cyclisme, c'est un système qui est économique assez fragile. Et donc, voilà, il va évoluer progressivement, même au niveau des staffs, des équipes. Il n'y a pas forcément assez de coureuses pour pouvoir faire un tour de 3 semaines comme chez les hommes. Et ça, je pense pas que l'intérêt de la course, il repose que sur la durée de la course. Voilà, aujourd'hui, elles sont extrêmement professionnelles, le niveau est extrêmement homogène, le parcours est à la hauteur. Donc,
Et Camille, sur 15 jours.
Ouais, c'est peut-être possible.
Alors, 3 semaines, ça paraît énorme, mais peut-être 15 jours. J'ai vu et j'ai lu que plusieurs coureuses disaient qu'elles étaient plutôt favorables à passer à 15 jours.
Oui, bah c'est sûr que les coureuses sont toujours favorables dans, on va dire, la professionnalisation et le fait que le Tour de France grandisse. Après, moi, je suis d'accord sur le fait que ça doit être progressif, parce que sinon, ça peut s'effondrer d'un coup et voilà. Après, c'est sûr que physiquement, elles sont capables de faire 15 jours. Voilà, peut-être en rajoutant.
Tu prends la construction petit à petit avec des bonnes fondations plutôt que de brûler les étapes et aller trop vite, c'est ça?
Oui, exactement. Marion Roux, elle disait ça. C'est que si ça s'effondre maintenant, avant qu'il y ait une autre fois un Tour de France femme, on va attendre très longtemps. Donc voilà, il faut s'inscrire dans la durée.
Tu penses pas qu'elles peuvent, pas toutes, tu viens de dire, mais après 15 jours, c'est vraiment trop ou je sais pas cette notion.
Non, mais il faut se rendre compte d'où le cyclisme féminin revient. Quand Christian Prudhomme a déclaré on relance le Tour de France féminin il y a 5 ans maintenant, il s'était donné 5 ans pour trouver un équilibre financier. Et sinon, eh ben il ne pourrait pas continuer. Déjà, prenons ça en considération et disons que quasiment le pari est réussi. Parce qu'aujourd'hui, on attend tous avec impatience la suite du Tour de France homme avec le Tour de France femme. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut la base. Et la base, elle est où? Je ne vais pas vous cacher que dans les régions, je m'occupe moi personnellement du comité des Pays de la Loire, il n'y a pas de course. Et des gamines qui font du vélo et qui sont en compétence d'aller faire 15 jours de vélo de suite sur un grand tour, il n'y en a pas pour le moment. On a grandi très vite, mais il faut consolider les choses qui marchent et travailler à la base pour amener des athlètes et demain de la concurrence. Parce que on le voit et c'est très bien, l'équipe Ma Petite Entreprise aujourd'hui menée par Vincent Lavenu et avec un système économique génial, avec un grand nombre d'investisseurs qui viennent et qui mettent une bille pour pouvoir avoir cette équipe, elle était pas née l'an dernier et cette année elle est sur le tour. Ça n'arrive pas chez les hommes. Il faut se construire. Il y a certaines gamines qui vont prendre le départ du tour, qui ont 20 ans et qui n'ont pas fait plus de 4-5 jours de suite. On est presque amateur, on passe pro et tout de suite on fait le tour. Il faudrait pas qu'on retrouve sur au bout de 5-6-7-8 jours des filles qui soient à plus de 2 heures au classement général et qui soient larguées au bout de 40 bornes.
En fait, on
perdrait en crédibilité, Fred.
Et c'est après, la jeunesse, pas. C'est pas un problème quand on voit
Non. Texas. Mais voilà. la jeunesse est une chose, Camille. L'expérience dans le cyclisme en est une autre. Si on arrive d'un autre sport et qu'on a des capacités dans le cyclisme et qu'au bout de 2 ans, on fait le tour. Mais il faut apprendre à vivre en peloton, il faut apprendre à frotter, il faut apprendre à se placer. Imaginons qu'il y a un peu de vent, il y a des bordures. Il ne faut pas que tout cela prenne la forme d'incrédibilité, c'est-à-dire que il faut pas qu'on ait des défis partout sur des étapes de transition. Ça, c'est pas possible. Donc c'est plus le cas aujourd'hui, mais j'ai peur que si on ajoute du temps, ça veut dire qu'on va faire des étapes de plaine un peu plus longues et que arriver aux étapes difficiles, eh ben on en est un peu partout. Il faut renforcer la qualité du peloton international féminin, et ça c'est très important avant d'allonger les courses. Et Marion Rousse le dit très bien hier, il y a une deuxième chose, c'est que le Tour de France est arrivé, c'est posé là dans le calendrier, mais avant il y avait d'autres courses. Il faut les respecter aussi, parce que elles certaines autres compétitions, elles ont traversé les tempêtes et elles sont toujours là, et on ne peut pas effacer ces courses-là sous prétexte qu'on est le Tour de France.
Non, mais c'est génial, parce que cette année on aura le Ventoux, peut-être que l'année prochaine on aura le Ventoux plus l'Alpe d'Huez, ainsi de suite.
On l'a eu l'Alpe d'Huez il y a deux ans.
Hein. Oui, dans la même session.
Honnêtement, ça c'est aussi très impressionnant, et pour nous le repère est énorme de se dire on va voir le Mont Ventoux avec le Tour de France féminin, parce que d'un seul coup ça devient mythique, d'un seul coup ça nous donne des repères, et d'un seul coup ça nous donne encore plus envie de regarder, même si Pauline Ferrand-Prévot n'était pas là.
C'est dur, mais je suis d'accord.
Pour conclure tout ça, on a Jean-Louis qui nous a appelé au 32-16 ce matin. Salut Jean-Louis, bienvenue dans les Grandes Gueules du Sport.
Bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Alors
bonjour,
toi, Jean-Louis, tu vas regarder évidemment ce Tour de France féminin et t'aurais regardé même si Pauline Ferrand-Prévot n'était pas là?
Bien sûr, il n'y a pas que Pauline Ferrand-Prévot, il y a même des Hollandaises depuis des années et des Belges qui savent faire du vélo. Le peloton féminin est effectivement en qualité un peu petit. Ils ont du mal à avoir suffisamment de monde pour faire un gros peloton, mais il y a du niveau, il y a des filles qui savent faire du vélo depuis longtemps, et il y a des championnes en dehors de Pauline Ferrand-Prévot.
Et cette comparaison permanente aussi, c'est ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, avec le cyclisme masculin aussi, comme quoi il faudrait une tête d'affiche pour que ça porte le tennis féminin, il n'y en a pas besoin finalement.
Non, mais c'est un peu un problème, je trouve, franco-français. À l'étranger, ils ne s'intéressent pas uniquement à ça. Et regarde les autres courses qu'il y a dans le calendrier. Il y a quand même des championnes belges, des championnes hollandaises qui, depuis des années, sont à haut niveau et font du vélo avec des courses qui sont intéressantes. Et effectivement, il y a généralement que 20 ou 30 filles sur un peloton de 100 qui sont vraiment au niveau. Et les autres sont là pour combler un petit peu. Il y a des équipes, je me souviens, il y a 2 ou 3 ans, qui n'étaient vraiment pas du tout, dès les premières étapes, elles étaient larguées. Mais
c'est plus le cas aujourd'hui, t'as raison.
C'est plus le cas aujourd'hui.
T'es obligé d'avoir des grandes têtes d'affiche. T'es obligé.
Oui, mais ça, c'est dans tous les sports. C'est valable pour tous les sports. T'as besoin de tête d'affiche.
Et quand je dis que si t'as pour un Tour de France en France, donc forcément, t'es obligé d'avoir une tête d'affiche française. Et si elle performe pas.
Pas forcément. T'as besoin d'un duel. Soit d'un quelqu'un d'extra dominant.
Mais non, mais comme, si t'es français, si c'est un duel, ben c'est pas vrai, une néerlandaise contre une belge, ça va intéresser moins le public français.
C'est vrai que c'est pas vrai. C'est pas foncièrement vrai. Alors, dans l'absolu, oui. Mais quand tu regardes Pogacar,
c'est incroyable. C'est pas forcément vrai.
Parce que regarde, quand tu regardes le Tour de France, c'est Pogacar qui est ultra dominé, il est pas français.
Oui, mais ça a été critiqué par beaucoup, justement.
Oui, mais il y a beaucoup de gens qui regardent quand même.
Mais parce qu'ils ont l'histoire du Tour de France. Il est pas construit encore. L'histoire du Tour de France féminin est en construction.
Soit t'as quelqu'un d'ultra dominant, soit t'as un duel. Et à partir du moment où t'as un duel où t'as deux personnes qui peuvent gagner l'une ou l'autre, ça va être suivi. Parce qu'on aime.
Non, mais la problématique, Fred, elle était. La problématique du cyclisme féminin jusqu'à il y a quelques années, elle n'était pas tant de la domination, parce que dans ce sport, et dès que tu allonges les distances, il y a une domination. C'est évident quand tu es plus fort, quand tu fais 9 jours, 10 jours, 11 jours, 12 jours, l'écart se creuse. Et ce qui était la problématique jusque-là, c'était l'homogénéité du peloton. Et ça, c'est en train de se régler. Mais n'allons pas trop loin dans les courses à rallonge, dans les trop longues courses, parce que, me semble-t-il, l'homogénéité en prendrait un coup. Ouais. Mais la domination et les têtes d'affiche, évidemment qu'il en faut. Et Tadej Pogacar, c'est un grand dominateur, mais on s'est intéressé au Tour de France quand même. Ça changera pas. Mais d'allonger la course, ça pourrait rendre un peu moins crédible le peloton. Et ça, c'est ce qu'il faut pas.
Et ça part aujourd'hui, donc depuis Lausanne. On va suivre tout ça, évidemment, dans l'intégral Tour aujourd'hui avec toi, Camille. Et pendant ces 9 jours, tu vas nous faire vivre tout suspense.
Ouais, je serai là à 14h pour commenter.
Parfait. Et ce sera sur RMC. On trouvera ces Johan.
Très belle étape aujourd'hui. Très belle première étape.
Qui lance cet intégral tour avec Maria Azé aussi, qui sera au commentaire avec Pierre Thévenet. Merci à Maria d'avoir été avec nous ce matin. Il est 10h30. On revient dans quelques instants. Une petite respiration. Arrête de me regarder comme ça, Fred. Tout va bien se passer.
J'ai le droit de te regarder quand même.
On va parler de Zinedine Zidane dans quelques instants. Zizou. Est-ce qu'on n'en fait pas trop avec notre Zizou national et bien sûr le vestiaire juste après pour savoir ce que nos GG faisaient en vacances. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussine. Il est 10h35, merci d'être avec nous sur RMC dans les grandes gueules du sport. On est toujours avec Fred Weiss, avec Cédric Emmons et Jérôme Pinault. Il est 10h35, place à la punchline maintenant et elle est signée ce matin, Zinedine Zidane.
RMC, la punchline GG.
J'ai toujours regardé cette équipe de France comme un supporter, mais aussi comme un futur entraîneur. Je vais pas vous le cacher, de toute façon, je l'ai dit, je l'ai toujours dit. Quand j'ai pas pris un club pour ça. La seule chose que je voulais faire après Madrid, c'est entraîner l'équipe de France. Et je m'y suis tenu. J'avais des opportunités, je pouvais très bien avoir un projet, suivre un projet pendant 2-3 ans. Je savais que Dédé était là, en place. Une fois qu'il a pris sa décision, dès le lendemain, de toute façon, j'étais animé de pouvoir être le suivant après Dédé. Dédé, c'est Dédé. Laurent Blanc, c'était Laurent Blanc. Zizou, c'est Zizou.
Zizou, c'est Zizou. Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France présenté en grande pompe ce mardi devant une centaine de journalistes en admiration devant l'aura de l'ancien numéro 10 des Bleus. On attend d'ailleurs vous aussi votre réaction aux 32-16 supporters de l'équipe de France. Zinedine Zidane semble faire l'unanimité auprès de tous les suiveurs de football alors que son mandat n'a même pas encore démarré. Alors votre avis, les GG, est-ce qu'on en fait trop avec Zinedine Zidane ? Cédric,
non.
J'ose même pas te regarder.
Non, n'en fais pas trop.
Voilà. Jérôme.
Ah bah non.
Fred.
Oh oui.
Ah, il est contre tout.
Alors j'ai envie de t'entendre en premier, Fred, du coup.
Bah c'est assez simple, je n'en peux plus. On est en train de balayer d'un revers de la main celui qui a été le plus grand sélectionneur de l'équipe de France de l'histoire. Et donc bah, on ne fait que.
Fred.
Vous pouvez me laisser terminer mon argument. Je n'ai même pas terminé ma phrase.
C'est déjà trop.
Je n'en peux plus justement de ces personnes qui voient Zidane comme le Messie, le Dieu vivant. Alors moi, je l'aime autant que ça m'agace cette situation, parce que je l'aime évidemment. On ne peut qu'aimer Zidane. On ne peut qu'espérer qu'il nous rapporte des résultats. Mais là, j'ai l'impression qu'il va arriver au match. Il va l'éviter un mètre au-dessus de la pelouse, qu'il va donner ses consignes.
Il évite un mètre au-dessus de la pelouse déjà.
Mais oui, mais non. C'est un être humain. Il n'a rien fait. Mais... Il n'a jamais fait ce métier qui est sélectionneur. Il n'a jamais fait ce métier. Je répète. Et je n'en peux plus entendre ça. On dirait qu'un chef d'État vient de sauver 50 000 personnes d'une noyade. On parle de Zidane comme si, quand il touchait les enfants, ils allaient mieux. Enfin, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de cette situation où on a l'impression de voir le Messie. Moi, encore une fois, j'adore Zinedine Zidane. Et je ne souhaite qu'une chose, que ça fonctionne. Mais je n'en peux plus. C'est insupportable. Mais oui, j'adore le personnage.
Tu as une faculté à dire l'inverse de ce que tu penses.
Non, je déteste la situation actuelle.
C'est ce qui est fait, bien sûr, c'est pas lui.
Lui, il y a absolument rien à lui reprocher. Il fait exactement le taf. En plus, sa conférence de presse a été plutôt magnifique de sa part. Mais ce qui se fait autour, on en parle tous les jours. J'ai l'impression que j'ai envie de savoir centimètre par centimètre.
Mais tu t'attendais à quoi?
Mais je dis pas que je m'attendais pas à ça. Je dis simplement que je n'en peux plus. J'ai quand même le droit. J'ai quand même le droit de ne plus supporter cette situation.
C'est pour ça que.
Mais alors déjà pour ça, et en plus parce que j'ai le droit,
je ne peux plus
supporter la situation où quoi qu'il se passe,
j'ai l'impression
que c'est minute après minute de ce qui va se passer avec Zidane. J'en ai marre, je ne supporte plus. J'ai envie que les matchs commencent, j'ai envie de voir enfin travailler et arrêter de parler lui sans rien.
Mais il y a une attente énorme. Il va falloir qu'il se baisse pour me le mettre quand même.
Mais je peux
la mettre. Mais moi, en sautant, je peux le toucher. On attend, les Français ont une attente énorme. Il s'est remporté un grand titre après la demi-finale perdue en 2026. Il y a un jeu.
Cette année, t'as pas besoin de réfléchir à la date quand même. C'est cette année. Non,
c'était il y a quelques semaines.
Tu vois, le problème de Zidane, c'est qu'il nous fait oublier. Il vous fait bégayer et vous fait ne plus vous rappeler quand c'était la Coupe du Monde.
On attend un titre, on attend un jeu beaucoup plus offensif de la part de cette équipe de France. Comment il va tirer le meilleur de la génération Mbappé et tous les autres joueurs?
Ah oui, la génération Mbappé est tout seul, quoi. Ouais,
bah non.
Tu t'arrêtes.
Parlons d'Zinedine Zidane. Vas-y, continue.
Non, mais il est dingue.
Il est chaud bouillant, là, ce matin. Et Jérôme, peut-être, toi, parce que tu as été véhément aussi sur la réponse de Fred.
Non, mais moi, je pose la question, elle est simple. On a tous un immense respect et une grande forme d'admiration pour Dédé et tout ce qu'il a fait jusque-là. Didier Deschamps a été le meilleur sélectionneur de l'équipe de France de tous les temps. Qui voulez-vous que l'on mette à sa place? On a la chance et l'immense honneur dans notre pays d'avoir un garçon qui a été notre idole à tous, notre dieu à tous en 98 et en 2000, qui est un génie du ballon, qui pue le football et qui crève d'envie depuis 5 ans, sans faire de vagues, en laissant Didier Deschamps finir son bail, de prendre l'équipe de France qui s'appelle Zinedine Zidane. Mais soyons heureux,
qui font le moment à la sélection.
Et c'est un truc de fou que le meilleur joueur, quasiment l'un des tout meilleurs joueurs de tous les temps de France, ait envie d'être sélectionneur de notre équipe de France. Et surtout, avec cet effectif-là, il dit en plus qu'il a envie de faire jouer cette équipe. Mais c'est génial. De toute façon, on en aurait fait des tonnes. Si ça n'avait pas été lui, on aurait mis qui à la place?
Alors, si ça avait été quelqu'un d'autre, on aurait peut-être moins
fait. Mais j'imagine la conférence de presse de Jérôme Pinault. Jérôme Pinault qui serait arrivé en disant non, j'ai pas envie de jouer avec l'équipe de France, les faire jouer, ça me saoule, ils sont nuls. J'imagine cette conférence de presse.
Je te parle juste d'un instant quand il a pénétré dans la salle de conférence de presse. Moi, j'ai eu la chance et l'honneur de partager une heure et demie avec Zizou dans un vestiaire et pour un match de foot caritatif à Limoges.
C'est peut-être lui qui a eu la chance plutôt. Non, là,
je pèse les mots. C'est quand il rentre dans un vestiaire, il y a des sportifs de très haut niveau qui forment le centre de droit et d'économie du sport. Quand Zizou arrive dans le vestiaire, c'est exactement quand il rentre dans la salle de presse, tout le monde se tait, tout le monde admire. Ce mec est un dieu vivant. C'est la vie. Et il est comme ça et ça continuera. Et même après. Alors maintenant, est-ce que le pari est gagné? Non! Il faudra qu'il fasse jouer l'équipe de France comme il faut. Il faudra qu'il nous fasse gagner des titres. Mais aujourd'hui, au stade de qui sera notre futur sélectionneur et a-t-il envie d'être les sélectionneurs? Mais le mec, il a été un génie du foot et il te dit, ça fait 5 ans que j'attends et je la regarde.
Un génie du foot déjà, comme Diego Maradona, entraîneur. Par exemple.
Ouais, et ça n'a pas réussi quand il était sélectionneur.
Ça a bien marché. Ça,
je pense que
Jérôme, il a été
avec tout le respect que j'ai pour Maradona, Zizou, c'est pas Maradona. Hein. Dans la vie privée, Zizou, c'est un peu plus cadré quand même.
Non, mais dans la vie privée, c'est plus cadré, je l'entends. Sauf que c'était lui aussi un dieu vivant, c'était lui aussi quelqu'un qui avait un charisme absolument incroyable. Il y a même une religion Maradona là-bas.
Qui avait moins d'expérience sur un banc quand même que Zinedine.
Évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que.
Zizou, il a passé ses diplômes.
Il vient avec son staff.
Il est allé dans un club où il y avait déjà un immense palmarès. Il a succédé à Carlo Ancelotti.
Il s'est formé auprès de Carlo Ancelotti. Il a gagné des titres après. Il est revenu et il a regagné.
Donc, moi j'adorerais qu'il perde, juste pour vous entendre tous les deux après, hein, pour voir la chute du héros.
Mais il va pas gagner tous les matchs, il n'y a pas une chute du héros. Après avoir été béatifié, il va être déchu. T'es déjà dans le côté négatif.
Alors, il était
l'idole de tout un peuple. Oui, et aujourd'hui, il n'a pas le droit à l'échec. Il aurait dû rester. Faire de la pub pour Adidas, c'est dire Regarde quand il est parti du Real, personne l'a saccagé, personne l'a sacrifié, personne n'a dit t'es mauvais. Ça a été comme ça. On sait très bien qu'il n'est pas gage de réussite, il n'est pas gage de tous les succès possibles.
Mais donc on en fait trop.
Mais pour succéder au meilleur de l'histoire, il fallait au moins ça. Et on l'a, et en plus, on a la chance qu'il ait envie de le faire.
Derrière Deschamps, ça n'a aucun rapport.
La question n'est pas là. La question n'est pas de savoir est-ce qu'on est content d'avoir Zidane. Moi, je suis très content d'avoir Zinedine Zidane. Et effectivement, je pense que c'est, en termes de passation de pouvoir, on ne pouvait pas trouver mieux. Sauf qu'à un moment, il faut arrêter juste de fantasmer Zinedine Zidane, qui n'a pas entraîné depuis 5 ans, qui fait pour la première fois de sa vie le rôle de sélectionneur. Ben moi, je veux voir d'abord. Je paye pour voir.
Tu veux pas trop t'emballer tout de suite.
Calmons-nous, on est content. Mais encore une fois, c'est certainement le meilleur choix possible. Et on est ravis d'avoir un homme de ce charisme à la tête de l'équipe de France. Évidemment qu'on est ravis. Mais calmons-nous un petit peu.
Mais tu t'emballes autant sur les sujets de basket NBA.
Ça reste un être humain. Même si tu ne le penses pas, ça reste un être humain.
Mais oui,
on le traite comme un saint quasiment.
Mais non, il a la crédibilité d'un jeune sélectionneur qui n'a pas encore démarré son mandat en équipe de France. Si, il vient de le démarrer, mais on n'a pas encore les résultats. Il a été un énorme joueur. Il a été très bon en tant qu'entraîneur.
Mais je ne dis pas qu'il réussira.
Les résultats. Mais alors, il y a s'enflammer et traiter Zidane comme un dieu vivant, mais on l'a toujours traité comme un dieu qui mérite, il a gagné.
En fait, en tant que joueur,
vous savez que vous êtes tous les deux d'accord et que vous dites exactement l'opposé l'un de l'autre.
Non,
il y en a un qui dit c'est un dieu, l'autre dit non, on l'a jamais traité comme tel. À un moment, faudrait vous mettre d'accord tous les deux déjà pour avoir une opinion.
Mais est-ce que t'as entendu parler de Zidane égale dieu?
Oui, Jérôme à l'instant.
Oui.
Mais ça c'est la vie de Jérôme, évidemment. Mais c'est
s'il n'y a pas de plus grand joueur sans doute dans l'histoire du foot français que Zinedine Zidane, donc voilà, donc c'est tout ce qu'il représente aussi aujourd'hui, et c'est pourquoi ça fait autant débat. On va y revenir dans quelques instants, restez bien encore affûtés, je vous sens là, au taquet là. Fred, il est
titillé tout le monde ce matin.
Ouais, 10h45, les grandes gueules du sport reviennent tout de suite, on vous attend aussi au 32-16, venez nous appeler pour participer dans les grandes gueules du sport et essayer de remettre Fred Weiss à sa place aussi. Bon courage à vous, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussi. Il est 10h48 sur RMC. On est de retour dans les grandes gueules du sport. Merci d'être avec nous ce premier samedi d'août. On est toujours avec Cédric Emmons, Jérôme Pinault et Fred Weiss. On débat aujourd'hui autour de l'arrivée de Zinedine Zidane au poste de sélectionneur des Bleus. Une arrivée en grande pompe. Est-ce qu'on n'en fait pas trop avec Zinedine Zidane? On va demander l'avis à Hicham qui nous a appelé ce matin au 32-16. Salut Hicham.
Salut l'équipe, salut. Bonjour, à tous.
Salut Hicham.
Alors, est-ce que pour toi aussi, Zinedine Zidane est un dieu du foot?
Alors, il y a deux questions. La première, c'est est-ce qu'on en fait trop? Et après, là, vous êtes en train de me dire est-ce que c'est un dieu du foot? Est-ce
ça va avec. Trop,
est-ce qu'on en fait trop? Je ne pense pas. Est-ce que c'est un dieu du foot? Oui. Pourquoi oui, c'est un dieu du foot? Parce qu'il l'a montré sur le terrain. Il l'a montré en dehors du terrain avec le Real Madrid, notamment ses trois Ligues des Champions consécutives. Ça n'a pas été fait dans l'histoire. En gérant des stars, en gérant des égos, en gérant des monstres du football pendant trois ans. Maintenant, il y a on en fait trop? Je suis mitigé parce qu'en fait, moi, ce qui m'embête, c'est que je connais notre mentalité à nous, les Français, c'est que quand il va commencer à entraîner, parce que là, ça reste l'idole, ça reste le grand Zizou qui a entraîné au Real et qui a montré ce qu'il a montré sur les terrains de foot. Mais quand il va y avoir quelques couacs, on l'a fait avec Deschamps, on a assassiné Deschamps il a fallu l'assassiner. Et là, j'ai peur que l'icône Zizou en prenne un peu pour son grade.
Après, Deschamps n'avait pas l'aura de Zidane dans le foot français non plus. Mais j'entends ce que tu dis.
Ouais, mais il est champion du monde, finalement.
Oui, bien sûr, mais l'aura de Zidane est incomparable dans le foot français aujourd'hui.
Là, je suis pas d'accord. En fait, il y a aussi une ombre. Quand on voit Zizou, c'est l'ombre de ce qu'a fait Deschamps pendant 14 ans. Et en fait, je pense que l'espace-temps qu'a pris Deschamps, il est énorme. On ne se rend pas compte. 14 ans à la tête d'une équipe nationale, je ne sais pas dans les annales du football français et mondial si ça...
Moi,
si
je crois que Joachim Löw aussi est resté longtemps à la tête de l'Allemagne.
Mais ça reste quand même énorme. Et je pense qu'il y a aussi ce décalage de temps où Zizou, il va arriver, il va devoir prendre l'héritage, mine de rien, de ses 14 années et écrire sa propre histoire de manière... là où je pense qu'on en fait trop, c'est l'arrivée de Zizou, c'est Zizou, mais... C'est le juge de paix, c'est ce qu'on va voir sur le terrain. Exactement. L'animation, les joueurs qui sélectionnent,
la gestion des joueurs.
Sélectionnent pas, la gestion des joueurs, la gestion des égos, la gestion.
Sachant que c'est sa qualité première, hein, bien sûr.
Oui, c'est sa qualité première, mais ça l'a été aussi pour Didier Deschamps, sa qualité première, faire des groupes, emmener un groupe, gagner en groupe, ça a été sa qualité première. Maintenant, est-ce que Zizou aura cette capacité à faire, parce que le reproche ultime qu'on avait à Deschamps, c'est qu'on se faisait chier pendant ces matchs. À part là, le dernier baroud d'honneur, il s'est dit bon, quitte à faire plaisir à tout le monde, je mets quatre attaquants et vous démerdez, il n'y a pas d'équilibre et on perd face à l'Espagne 2-0 en recevant une leçon de football.
C'est bien résumé.
J'aime beaucoup ce résumé, moi, Hicham.
Zizou, quand il va arriver, il aura ses principes de jeu, on va voir ce que ça va donner, on va voir.
Et on ne sait pas lesquels d'ailleurs, c'est oui, évidemment la question.
Si on se rappelle un petit peu, au Real, le jeu n'était pas foufou non plus.
Il y avait pas. Oui, c'était s'appuyer sur ses stars, sur les forces individuelles.
Appuyer sur son vestiaire. Après la comparaison,
Hicham va sélectionner ses joueurs là, Fred, cette année.
Hicham, la comparaison avec Deschamps, elle existera, puisque comme tu l'as dit, il a fait 14 ans, le style de jeu, on va le comparer, les conférences de presse vont être comparées, c'est tout à fait logique. Et là où je te rejoins, c'est nous, Français, on va peut-être pas lui laisser le temps de bosser et de s'installer.
Cédric, c'est en ce sens que moi je dis qu'on en fait trop, parce qu'on aime brûler nos idoles, on en fait trop maintenant.
Ah ben alors tu t'es très mal exprimé.
Non, mais c'est aussi dans ce sens, alors si tu préfères.
Donc t'as peur quelque part pour Zidane, alors.
Bien sûr, parce qu'on l'expose énormément. On l'expose énormément. En fait, en le traitant de superstar, de dieu, de mec qui flotte au-dessus de la pelouse.
Est depuis des années,
mais je suis d'accord. Sauf qu'en en parlant tous les jours, ça ne fait que rajouter de la pression. Et il faut se rappeler encore une fois, et j'ai dit encore.
Zidane, la pression, ça passe au-dessus de la tête.
Oui, mais je l'ai dit en préambule, Didier Deschamps, 14 ans avec un vrai bilan incroyable. Donc, il faut pas non plus balayer d'un revers de la main. Et moi, je pense que, vraiment, on en fait trop par rapport à Zidane, parce qu'en France, on aime brûler nos idoles en plus.
Alors là, moi, je veux te dire, Fred, j'attends vraiment les premiers, parce qu'ils l'ont fait avec des Deschamps, mais c'est pas le même caractère. J'attends vraiment les premiers soubresauts et la non-satisfaction de la presse française notamment, et le premier qui va dégainer en expliquant le football à Zizou. Moi, j'attends ce moment-là parce que je pense qu'on
va arriver. Mais ça va arriver, tu sais que ça va arriver.
Mais ça va pas être la même réaction que Didier Deschamps.
Hein. Mais Zidane, la pression, il la supporte, comme nous, on supporte la pression.
Mais évidemment qu'il la supporte, mais ce que je veux dire, c'est qu'on met une pression sur le fait que la France doive avoir des résultats, on met la pression sur le fait que Zidane est juste, encore une fois, un dieu vivant.
La chance qu'on a, Fred, c'est que sur ce nom, on a parlé tout à l'heure de Maradona, on le sait, toi et moi, et moi encore un peu plus, c'est que Zidane est un gros bosseur. C'est pas un nom qu'on a embauché. C'est un mec qui bosse au quotidien.
Et qui a priori prépare en plus tout ça depuis 5 ans.
Il prépare ça depuis très longtemps. Et je peux vous dire qu'il travaille énormément et il sait où il va. Et c'est à la différence de on prend un nom parce que cette équipe est bonne.
Oui, mais il arrive avec son groupe.
Vous savez aussi bien que moi, malheureusement, le travail n'est pas suffisant pour gagner des titres.
On verra en tout cas ce que ça donne. Son contrat démarre aujourd'hui officiellement. On va remercier Hicham de nous avoir appelé. Puis on va accueillir Patrick qui est avec nous aussi ce matin dans les grandes gueules du sport. Salut Patrick.
Oui, salut tout le monde.
Bonjour Patrick. Bonjour Patrick.
Bah, ça va très bien et toi ?
Ça va, écoute, il fait 30 degrés, je suis à Toulon, près de la mer. J'écoutais votre émission.
Ah bah t'es pas mal là.
Et les bras m'en tombent parce qu'il y a un des journalistes qui est autour de la table.
C'est Frédéric, je suis
pas journaliste. Non, on est consultant.
Ils sont consultants.
Je sais pas comment vous appelez ça.
Consultant.
Moi, on m'appelait le blaireau d'habitude, mais tu peux m'appeler comme tu veux.
C'est ce jeune homme-là qui a cette.
Ah, le dauphin. C'est Frédéric.
C'est Frédéric.
C'est un dauphin,
Frédéric.
Tu vas en voir au large qui lui ressemble.
Les bras m'en tombent quand j'entends. Alors, je vais essayer d'être bref, concis. Quand j'entends dire, regardez Maradona. Mais Maradona n'a même pas été capable d'entraîner une équipe de deuxième division mexicaine. Maradona n'était pas bon. Il était reconnu comme pas bon. Zidane. D'abord, Zidane, pour moi, c'est pas un entraîneur, c'est un sélectionneur. Et quand il était au Real de Madrid.
Alors, par contre, c'est au Real Madrid, si tu veux me reprendre, je peux te reprendre aussi.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
C'est au Real de Madrid, ça se dit pas, c'est au Real Madrid.
Ah, pardon.
Mais il n'y a pas de problème.
Je suis désolé, ouais, Vlan, prends ça dans les dents.
Un cheval sur les mots.
Hein. Ouais. Quand il était au Real Madrid, l'entraîneur, c'était David Bettoni, c'est lui l'entraîneur. C'est lui qui, comme d'ailleurs Didier Deschamps, hein. C'est Guy Stéphane qui faisait courir les joueurs, qui les entraînait. Zidane, lui, quand il arrive dans un vestiaire, vous l'avez dit, quand il arrive dans une salle, on l'écoute, il a un discours, il a une aura qui fait que le choix va être important des joueurs qu'il va choisir.
Bien sûr.
C'est ça qui va être important dans Zinedine Zidane. Et moi, je pense que, bon, on adore brûler ce qu'on a adoré. Regardez Mbappé en 2018.
Oui, qu'on est d'accord, monsieur.
Et après, c'est devenu, eh ben, moi, je trouve ça affligeant. On a des super joueurs. On a deux personnalités, Deschamps, 14 ans. Et maintenant, la Zidane. Mais c'est une chance inouïe.
On est royal,
donc,
en fait.
Lieu, bah oui. Au lieu de les encenser et puis de les démonter, on n'a qu'à un peu moins les encenser. Là, je suis d'accord avec vous. Et essayer d'être un peu plus neutre,
ouais.
Un peu plus mesuré. Voilà. Et vous verrez que je suis, bien sûr, je suis Marseillais de cœur. Alors, bien sûr que Zidane, mais je l'adore comme tous les Français. Marseillais, bah, on s'en fout. Je suis certain qu'il va apporter quelque chose. Et j'espère que ça sera, comme il a dit très justement, dans la continuité de Didier Deschamps. Après, effectivement, on n'est pas certain d'avoir un super jeu. Hein, parce que David Bettoni a au Real.
Son adjoint principal, ouais.
Au Real Madrid, je précise.
C'est magnifique, Patrick.
Ne faisait pas très bien jouer. Mais le résultat était qu'il gagnait.
Patrick, je me permets de vous interrompre une seconde. C'est la première fois que je gagne un débat, que je convainc quelqu'un sans parler. Parce qu'au final, vous me donnez
c'est
raison.
Parce que t'as
et
tout
c'est
dit
magnifique.
Avant. T'as tout dit avant, c'est pour ça. C'est tout ça, c'est pour ça, Fred. Merci, Patrick, d'avoir été avec nous ce matin dans les grandes gueules du sport. Il est bientôt 11h. La dernière ligne droite arrive dans quelques instants pour les GG du sport. On va ouvrir les portes du vestiaire pour savoir ce que nos GG faisaient quand ils étaient en vacances. Franchement, ratez pas ça parce qu'il y a quelques pépites, je pense, qui vont suivre. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.